territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off
des polémiques.
Que faisiez-vous ?
Il s'agit d'un trucage.
Odieux.
Bonsoir Emmanuel Macron. Pourquoi vous avez démissionné ?
Parce que le président de la République, qui a été grave et parfois comique, parce que j'ai de l'ambition. Grave. Donc, il faut sombrer dans le narcissisme. Moi, je l'assume totalement. D'ailleurs, je ne suis pas ici sincère.
Monsieur Macron, vous nous dites, je ne suis ni de gauche, ni de gauche.
Non.
Que ça n'a pas de sens. Que
non.
C'est... Mesdames, messieurs, je suis de gauche.
Non. Écoutez, non, je ne suis pas de gauche. Grave. Pas. Parce que la gauche n'était pas compatible avec ma culture, mon origine. Je n'avais pas vocation pour être de gauche. Voilà. Et évidemment, je pense profondément, au fond, et au fond du fond, au fond, que la gauche, c'est grave. Et donc, aujourd'hui, j'ai une volonté le matin d'être d'une droite conservatrice. Des patrons, peut-être un peu vieux jeu, mais pas que sécuritaire.
À quoi va-t-il servir ce mouvement En Marche ?
À rien. Voilà.
Monsieur Macron, c'est fini ?
Non.
Vos déclarations ?
Non. Écoutez.
Merci beaucoup.
Non, non. Que faisiez-vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Quelques heures plus tard, la vérité éclate. Il s'agit d'un trucage.
Et avec qui ?
La voix off.
Polémique.
Odieux.
Macron pourrait-il démissionner ou abdiquer ? Peu probable, tant on a l'habitude de voir des voyous mal élus se cramponner au pouvoir jusqu'au bout. Mais comme vous allez l'entendre, notre ami André pense que le paltoqué ne fera pas long feu. Salut les amis, c'est La Voix Off avec aujourd'hui le retour de nos copains profs d'histoire géo qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, vu qu'en ce moment cette émission vous parle surtout des luttes anti-mégavaccines et autres abominations du genre. Mais ça fait du bien de retrouver les camarades autour de deux articles du Monde Diplomatique de janvier 2025. En fin d'émission, vous avez rendez-vous avec Philippe pour sa remarque sur les médias.
Bonjour.
En seconde partie, Daniel reviendra sur la situation en Syrie, où, nous jurent les médias dominants, les islamistes qui ont pris le pouvoir ne sont pas si barbus que ça.
Et bonjour à tous.
Et on démarre avec André et cette fin de règne macronien qui empeste le brun.
Bonjour à tous.
Dans le Monde Diplomatique de janvier 2025, cet article de Serge Halimi, fin de règne chaotique pour le président français, impopularité record, succession d'échecs. Depuis 6 mois, l'obstination de M. Emmanuel Macron à ignorer le désaveu électoral dont il a été l'objet provoque une situation de blocage politique et d'instabilité ministérielle. Pour se maintenir au pouvoir, il cherche à créer une coalition de troisième force, allant de la droite au centre-gauche. En choisissant M. François Bayrou comme Premier ministre, le président français tire-t-il sa dernière cartouche ? Je vous avais fait part à l'époque de l'élection de Macron que, d'abord avant même qu'il soit élu, ce type me faisait penser à Thatcher. Enfin, c'était tout à fait évident qu'on allait découvrir le thatchérisme des décennies après les Anglais. Et puis en campagne, Macron m'a fait penser à Pétain. Ses slogans type « La France en marche » et puis après... Ces efforts qu'il a fait pour réhabiliter Pétain. Oui, le premier Pétain était quand même un grand soldat, même si le deuxième a eu des choix funestes. Aujourd'hui, Macron me fait penser à Napoléon III, qui est élu président de la République et qui profite pour mettre la main sur le trône. Un dictateur. André, avons-nous jamais vécu en France une situation politique comparable à celle d'aujourd'hui ?
Non, il y a des choses complètement nouvelles, sans précédent. D'abord, la situation économique et internationale. C'est cette situation internationale qui va chasser Macron du pouvoir. Parce que sauf de faire une révolution, les Français sont ni prêts ni volontaires pour faire une révolution, c'est-à-dire descendre dans la rue avec les fourches, chasser ces salopards-là, en guillotiner quelques-uns, etc. Enfin, débarrasser la France de ces gens nuisibles à la totalité du corps social, qui ne sont pas prêts à faire la révolution. Donc ça viendra d'ailleurs. Moi, je pense que les Américains tiennent Macron. Les Américains, je parle des services secrets, oui, je sais, je suis complotiste, etc., etc. La CIA n'existe pas, la NSA n'existe pas. Il n'y a jamais de complot, tout est à l'air libre, etc. Mais en réalité, toute une partie de la politique est une politique secrète. C'est ce que j'enseignais, moi, à mes élèves. Toute une partie de la politique, depuis le début du XXe siècle, au moins, est une politique clandestine, secrète, faite par des gens très informés, mais qui se gardent bien d'informer les... et qui ne donnent aux journaux, aux médias, que des informations déformées, tronquées... Pour ce qui est de la situation présente, Macron, c'est quand même l'homme qui est arrivé au pouvoir par une opération politique propulsée par et une partie des milieux hollandistes, enfin des gens de pouvoir du Parti Socialiste, qui se disent on va faire une succession à Hollande, etc. Bon, admettons qu'Hollande était en partie trompé, un truc comme ça, n'empêche qu'il a mis la main à la pâte et que c'est un de ses hommes qui travaillait avec lui, qui arrive au pouvoir, une belle opération avec l'aide de tous les médias, etc. Et hop, pas une opération de putsch, parce qu'en fait, elle est légitimée par un vote des classes moyennes, éduquées. Ce bloc-là que Macron essaye absolument de reconstituer politiquement, c'est ce que dit Halimi. En nommant le centriste et pro-européen M. Bayrou à Matignon, le chef de l'État espère ressusciter ce type de coalition. Bourgeoisie, diplômée, âgée, bonne clientèle de la presse qui pourfend le populisme, fermez les guillemets. L'ancien Premier ministre Alain Juppé avait ainsi défini les contours en 2015, un moment où les journalistes l'avaient désigné à tort comme il se doit, grand favori de l'élection présidentielle suivante. Deux points. Il faudra peut-être songer un jour à couper les deux bouts de l'omelette pour que les gens raisonnables gouvernent ensemble et laissent de côté les deux extrêmes. Vous reconnaissez là le vocabulaire commun, vulgaire de la presse. De droite comme de gauche qui n'ont rien compris au monde. Il faudrait rajouter au monde des affaires, évidemment, au monde financier. Bon, je poursuis la citation. Cependant, comme depuis 10 ans, le centre de l'omelette est devenu de moins en moins charnu, et encore moins appétissant, les gens raisonnables peinent à y trouver de quoi nourrir une majorité parlementaire. D'où les votes de censure à répétition, et là, bien sûr, Halimi décrit ce qui se passe depuis l'instabilité, l'impossibilité pour Macron de trouver une majorité. Alors, la tentative actuelle, tout le monde le sait, c'est de faire du charme au Parti Socialiste, parce que le Parti Socialiste, c'est la partie faible de la gauche, enfin de la gauche, je mettrai des guillemets, du Front Populaire. Ils se sont redonné une petite coloration de gauche dans ce Front Populaire. En fait, c'est toujours comme ça qu'ils procèdent. Les radicaux, ils faisaient la même chose. On se mettait dans un front de gauche pour apparaître de gauche. Mais en réalité, on arrivait au pouvoir et on dirigeait la France avec la bourgeoisie. Il y a plein de gens au Parti Socialiste qui sont encore prêts à faire des alliances avec Macron, et Macron le sait bien, etc. Les socialistes ont quand même un lourd passé. Halimi rappelle, à propos de Bayrou, du Modem, le centre dont, je crois, Mitterrand disait le centre, il n'est ni à gauche, ni à gauche. Alors le modèle, 36 députés sur 577, appartient à la coalition départementale. Mais ces deux partis, il s'agit de LR, du Modem, voilà ce que dit Halimi, et je trouve ça assez savoureux. Ces deux partis ne sont pas rétifs aux bizarreries démocratiques, puisqu'ils partagent avec les socialistes la responsabilité d'avoir fait adopter par la voie parlementaire un traité constitutionnel européen presque identique à celui que les Français avaient largement rejeté par référendum en mai 2005. Et pan. Alors évidemment, on peut toujours rêver qu'une telle coalition, c'est-à-dire le PS, le Modem et LR, ou une partie de LR, tout ça, on badigeonne ça avec le centre-gauche, le centre-droit, et on fait un truc. Bon, pour l'instant, ça marche pas. Et il est toujours sous la menace d'une motion de censure par le Parlement, car en fait, Bayrou n'a aucune majorité. Et comme Bayrou a dit très clairement qu'il n'allait pas revenir sur la mesure sans doute la plus impopulaire du régime, c'est-à-dire la loi sur les retraites, il y a peu de chances que Bayrou obtienne la majorité parlementaire. Alors je pense qu'il va être viré quand même, Macron. Il va être viré par les Américains. Elon Musk s'est attaqué avec ses réseaux au régime travailliste anglais, au système social-démocrate allemand, je crois. Ils veulent débarrasser en quelque sorte la tête des gouvernements de ces vassaux européens, gouvernements impopulaires et parfois mal élus, et les remplacer par quelque chose de beaucoup plus conforme à leurs intérêts, de type Mélanie, etc., c'est-à-dire une extrême droite atlantiste. Parce que ça existe. Au départ, on imagine que l'extrême droite est nationaliste, chauvin, c'est la description que nous donne la presse bien pensante, etc. Mais en réalité, les gens du Front National, ils sont tout à fait solubles, compatibles avec la droite bourgeoise la plus atlantiste. De toute façon, déjà, le gouvernement actuel de Macron, c'est un gouvernement qui est une délégation de l'Europe, puisque on est sous la domination de von der Leyen, de la Commission européenne. En fait, notre autonomie, elle est extrêmement mince. On n'a pas grand-chose à décider, puisque de toute façon, tout est décidé à Bruxelles. Même les dispositions les plus importantes de la politique française, nous n'avons aucune souveraineté. La France n'a aucune souveraineté démocratique, c'est-à-dire qu'on peut élire tous les députés qu'on veut. De toute façon, les décisions les plus importantes ne sont pas prises chez nous. Même la décision d'envoyer des soldats ou du matériel ou du fric en Ukraine pour faire la guerre contre les Russes, c'est même pas nous qui avons pris réellement cette décision-là. On est complètement prisonnier, de toute façon, de décisions qui sont prises à Bruxelles et à Washington. C'est clair. Que peut-il se passer dans ces conditions-là? Vous imaginez la montagne de contradictions, la montagne qu'il faudrait raser pour avoir une vraie démocratie en France et des citoyens qui décident de leur avenir. Il faut une révolution. Il faut une révolution. Même une partie de la bourgeoisie pense qu'il faudrait faire une révolution. Je pense qu'on arrive à un point, peut-être comme en 1789, c'est-à-dire une alliance bizarre entre la bourgeoisie et la paysannerie. Parce qu'en fin de compte, dans la révolution de 1789, on a cette coalition qui est vainqueur, c'est-à-dire l'immense paysannerie qui est le peuple français dans sa masse, avec des bourgeois même riches. Songez que les bourgeois de la Constituante, qui sont élus, sont des gens riches. C'est la grande bourgeoisie. Et cette grande bourgeoisie dit non, ce système d'ancien régime ne peut pas continuer. C'est un système qui est tragique pour la France, pour l'État, pour les institutions, pour une quantité de choses, à la culture, à l'histoire, au patrimoine, etc. Or, l'action de Macron a été, poursuivant celle entamée par nos socialistes, etc., a été la destruction de l'État français au bénéfice d'une structure, superstructure technocratique européenne qui est une catastrophe. Imaginez quand même des gens de la bourgeoisie qui connaissent leur histoire et qui savent que l'État français a quand même été en grande partie constitué après la Révolution française, à l'époque napoléonienne, une grande partie des cadres, des structures. Alors bien sûr, l'État monarchique avait déjà créé des choses. L'État monarchique est déjà un État très constitué avec une administration, une justice, des lois. Mais quand même, la France moderne, elle naît après la Révolution française. Toutes ces institutions, de l'école polytechnique jusqu'à la Cour des comptes, et tout, c'est fait à l'époque napoléonienne. Entre 1800, on achève la Révolution française, et ensuite toutes les institutions sont faites à cette époque-là, y compris la monnaie, le franc. Et l'État français existe, avec une diplomatie par exemple. Aujourd'hui, tout cela a un peu explosé, il n'y a plus de monnaie française, il n'y a plus de diplomatie, une partie des cadres institutionnels a disparu, l'État est impuissant en face de problèmes qui sont des problèmes majeurs, comme par exemple le problème de la délinquance et de la drogue, et le problème d'une immigration, etc. Il y a un affolement dans une partie de... Parce que toute la bourgeoisie française n'est pas une bourgeoisie multinationale, hors sol, installée aux États-Unis, etc. Non, il y a une partie de la bourgeoisie, elle est en France, et elle restera en France. Et ces gens, le système macronien, pour eux, est insupportable. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect des choses. Il n'y a pas que la classe ouvrière qui va régler le compte à Macron. Il y a aussi une partie de la droite bourgeoise qui ne supporte pas ce qui se passe aujourd'hui. Toute la bourgeoisie n'est pas multinationale et oligarchique. T'as toute une partie aussi qui s'aperçoit bien qu'il y a disparition, l'État, la nation. Alors sans être passéiste, conservateur, voire réactionnaire, il faut bien constater que cette chose-là, elle est insupportable à plein de gens. Macron, là, à un moment donné, le liquidateur va être chassé, assez vite. Parce qu'il y va quand même de l'existence de choses auxquelles beaucoup de gens tiennent quand même. Sans compter la misère. On devient un pays du tiers-monde. Enfin, cette misère massive qui gagne en France, on la voit lorsqu'il y a des inondations, des catastrophes, on voit une petite partie de la misère émerger sur les médias. Mais sinon, non. Or, c'est un phénomène qui est gigantesque. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de révolution, mais en tout cas, je pense que le système macronien va s'écrouler.
Daniel.
Mais je voudrais revenir un petit peu sur le rapport des présidents de la République et du Parlement en France. Le premier président de la République en France, c'est le prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui est aussi le premier président élu au suffrage universel. Mais il y a un conflit de durabilité du pouvoir entre le prince président et l'Assemblée. Eh bien, ça se termine par un coup d'État au profit du président, mené par lui, hein. C'est pas d'autres qui le font. Et puis, il y a deux autres cas. Sous la Troisième République, c'est MacMahon et Millerand. MacMahon, monarchiste et président de la République dans le milieu et la fin des années 1870, veut instaurer un pouvoir présidentiel, on va dire, pour simplifier, et il a face à lui une opposition. C'est là qu'il dit « j'y suis, j'y reste ». Il va être obligé de démissionner. L'autre, c'est Millerand, président de droite, face au cartel des gauches, Même scénario qu'aujourd'hui, désaccord sur tout gouvernement, toute politique, et finalement, Millerand va démissionner aussi. Bon, alors je ne pense pas que Macron fasse un coup d'État comme le prince et neveu de Napoléon Ier, celui que le grand Victor Hugo a exécuté d'une formule célèbre, Napoléon le Petit. Ce conflit entre un pouvoir présidentiel et un pouvoir parlementaire, il s'est produit très clairement quatre fois. Alors il y a eu aussi conflit de courte durée sous la Ve République entre le pouvoir de Gaulle et l'Assemblée. Le gouvernement de Georges Pompidou a été mis en minorité par l'Assemblée. De Gaulle, il ne gouvernait pas, il présidait. C'est bien Pompidou qui gouvernait sur les orientations, etc. Qu'est-ce qu'il fait ? 162. Le Premier ministre applique la Constitution. Il démissionne, lui et son gouvernement. Le président de la République renomme Pompidou Premier ministre et il dissout l'Assemblée. Sauf que tout le monde n'est pas de Gaulle, il gagne les élections. Et les institutions ont fonctionné, le verbe est resté aux électeurs. Or là, le problème, c'est qu'il n'y a pas recours aux électeurs. On ne peut pas dissoudre une assemblée avant un an. C'est lié à un épisode de l'histoire française. C'est la révolution de 1830. Charles X se trouve au début de l'année 1830 avec un suffrage censitaire qui lui élit une chambre majoritairement libérale. La charte constitutionnelle lui donne le droit de dissoudre l'assemblée élue par le suffrage censitaire. Il dissout la chambre avant qu'elle ne soit réunie. Il dissout les élections, en tous les cas. Mais ça, le déclenchement, la goutte d'eau qui met le feu aux poudres pour la révolution de 1830. Et toutes les constitutions ont ensuite adopté en France ce délai d'un an. C'est lié aux mésaventures de Charles X le Simple.
Pour en revenir à l'actuelle Ve République déliquescente, on vous a déjà ici raconté comment ce régime est né avec le coup d'État de Gaulle de 1958, putsch soft, qui mettait fin à une 4e République très instable, car plus démocratique que celle d'aujourd'hui. La 4e était un régime parlementaire, pas un régime de président monarque à parlement croupion et député godillot. Or, la 5e d'aujourd'hui semble aussi fragile que l'était la 4e de jadis, André.
Si tu compares les constitutions, la 4e République est infiniment plus démocratique que la 5e. Beaucoup plus démocratique. On a perdu énormément en démocratie avec la 5e. Le pouvoir de l'Assemblée était total pendant la 4e République. L'Assemblée, c'est-à-dire les représentants du peuple, contrôlait l'exécutif. C'est ça une démocratie. C'est-à-dire que tu as des représentants du peuple. Tu ne peux pas avoir une démocratie directe. Hein. C'est trop grand la France. Hein. Bon. Donc tu as des représentants qui sont les députés. Double rôle. Ils font la loi et en contrôle l'exécution, c'est-à-dire contrôle l'exécutif. Le Premier ministre et les autres ministres, le gouvernement, c'est l'exécutif. Ils exécutent une loi. Ils ne font pas une loi. Ils exécutent une loi qui est faite par les parlementaires. C'est ça la démocratie. T'as un peuple souverain. C'est dans la déclaration de 89, c'est dans toutes les déclarations. Et si tu déroges à ce principe, tu n'as plus une démocratie. T'as autre chose. Bon. En l'occurrence, en 5e République, hein, tu sais que toute une partie de la loi est faite par l'exécutif, sous forme de projet de loi, de décret, etc., d'ordonnance. C'est pas démocratique, ça. Les lois devaient être uniquement faites par proposition de loi des députés. Ensuite, l'Assemblée, sous la 4e République, décidait de son ordre du jour, de ses séances, de son programme, de façon souveraine. En 5e République, c'est le gouvernement qui décide de quoi va discuter l'Assemblée. Quand même, ça fait une différence. Hein. Ensuite, sous la 4e République, les ministres devaient venir, sur demande des députés, justifier leur politique au jour le jour, à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous avez fait là ? Et c'était pas une séance une fois tous les mois, etc. C'était en permanence. Les ministres étaient soumis au contrôle des députés. C'était ça, la démocratie. Le problème de la 4e République, ça a été les guerres coloniales et la guerre froide. En plus de ça, il y avait 20% à peu près du corps électoral qui votait communiste. D'abord, le Parti communiste et les gaullistes n'étaient pas d'accord. Les communistes n'étaient pas d'accord avec la politique atlantiste, la politique pro-américaine, etc. pendant la guerre froide et la politique coloniale. Comment se débarrasser des communistes ? Alors, les communistes sont virés en 1947 et donc il faut faire une majorité parlementaire, mais avec 20% des députés en moins. Arithmétique difficile. D'où les combinaisons à la mort moelle de la 4ème République. Combinaison auquel participent assez vite les socialistes. Les socialistes commencent par faire une troisième force. Nous sommes en 47, toi. Ils font une troisième force avec les centristes du MRP, les démocrates chrétiens du MRP.
Que le Canard Enchaîné appelait « mouvement à récupérer les pétainistes ».
Socialistes, SFIO et MRP contre les extrêmes, c'est-à-dire les communistes et les gaullistes. Tu vois, les extrêmes, oh, c'est vilain les extrêmes. Hein. C'est mieux le milieu, c'est mieux quand même hein, le centre. Bon, le problème, c'est qu'il y a des guerres coloniales. C'est la guerre d'Algérie qui va provoquer la fin de la 4ème République parce que c'est difficile. Alors, De Gaulle, bon, je passe là-dessus sur le coup d'État de De Gaulle, parce qu'il fait un véritable coup d'État, hein, avec des chantages à la guerre civile, etc. Bon, puis intervention des militaires en Algérie qui portent De Gaulle au pouvoir. Et De Gaulle se fait introniser par l'Assemblée nationale, dont les socialistes, pour la grande majorité des socialistes, etc., qui vont marcher dans l'affaire. C'est en 1er juin 1958 que se fait la loi comme quoi il a tout pouvoir, etc. Bon, et il fait rédiger une constitution. C'est le système électoral qui va changer. On va réussir à se débarrasser du vote communiste. Il s'agissait de virer les communistes. Alors, Debré, il a fait un découpage électoral extraordinaire. Où tu as deux mêmes partis qui ont le même nombre de voix. Il y en a un qui a 32 députés et l'autre qui en a 216, toi, à peu près. J'ai dépouillé les résultats, nombre de voix et nombre de députés, avec mes élèves, tu vois, au lycée lorsque j'étais professeur. C'est un vol, c'est une escroquerie. On vole les électeurs, etc. Et on fait une majorité tranquille à De Gaulle, qui crée un parti pour l'occasion, l'UNR, Union Nationale Républicaine, bref. En éjectant les voix communistes. Il y avait une circonscription au Havre, ville communiste. Il y avait 100 000 électeurs qui votaient pour un député communiste. Là, on l'avait bien isolé. Et ensuite, après, tu avais des circonscriptions en Alsace, où tu avais 16 000 électeurs pour un député, quoi. C'est un vol, hein. C'est une escroquerie, évidemment. Et c'est comme ça que s'est installé le pouvoir de Gaulle. Alors, De Gaulle n'était pas Macron, hein. Pour arriver à l'ignominie du président actuel, c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait revenir à un système plus démocratique. Et effectivement, il faudrait revenir à un système de vote proportionnel, bien sûr, évidemment. Alors bon, ça va favoriser le Front National. Bah, Brecht, il disait, oh là là, le peuple, c'est terrible, il a mal voté, il faut dissoudre le peuple. Bon, bah, désolé, il y a 20% des gens qui votent Front National. Il faut combattre politiquement les idées. Il faut se battre sur des idées, c'est ça aussi la démocratie. T'es minoritaire. Bon, aujourd'hui, c'est pas la gauche qui est majoritaire. Peut-être une partie, c'est sa faute. Hein. Mais il y a aussi le fait que les médias ont fabriqué la situation électorale actuelle. Ils ont fabriqué une image du Front National. Le Pen les a beaucoup aidés là-dedans. On a fabriqué des épouvantails. La presse s'est jetée là-dessus. La gauche a embrayé immédiatement. Oui, non, Front National, carrément anti-Le Pen, etc. Mais il aurait fallu se battre sur les idées, le fond des choses. Pourquoi le peuple a-t-il mal voté? Alors, je te dis tout de suite, c'est pas parce que je pense que Le Pen avait raison et que le Front National est dans le juste. Mais il y avait quelque chose qui a aidé à ce vote-là. Et c'est ça qu'il aurait fallu combattre, sur les idées et sur le fond. Ça n'a pas été fait. On s'est contenté d'invectives. Ou les vilains, ou les pas beaux, un petit peu comme avec Poutine. C'est un méchant, on lui fait la guerre. Discutons, ça s'appelle la politique, hein. Alors que là, on se contente de jugements moraux, etc. Bon, bref, toujours est-il que le borgne est mort, je ne veux pas le pleurer, je vous le dis tout de suite, hein. Il est tout ce que je détestais dans la politique française, c'est-à-dire et l'héritage du pétainisme et l'héritage des guerres coloniales.
La voix off.
Et une polémique.
Il s'agit d'un trucage.
Bonsoir Jean-Marie Le Pen.
Bonsoir.
Et merci d'être venu répondre à nos questions.
C'est tout à fait naturel. Moi je suis le chouchou des médias. Parce que moi je suis trimaran.
Du coup la meilleure candidate pour le Front National ce serait pas Marine Le Pen.
Mais non parce que Choufa, ça ne marchera pas. Les Français ne sont pas aussi sots que cela. Choufa c'est une formule nord-africaine.
Pchit.
Oui, pchit si vous voulez.
D'accord.
Parce que moi je suis immigré, mais trimaran. Et puis je suis un petit peu quand même musulman, bien qu'étant d'extrême gauche, n'est-ce pas? Moi je suis dans une position schizophrénique, je crabouillais la grogne dans la rue, dans le métro, dans les trains, pendant des années. Grogne.
La voix off.
Et une polémique.
Il s'agit d'un trucage.
Suite de notre rencontre avec les copains profs d'histoire géo autour d'un article du Diplo consacré à la Syrie. On se souviendra qu'en 2001, Chirac président a décerné la Légion d'honneur au dictateur Bachar el-Assad et Sarkozy président a invité le tyran syrien au défilé du 14 juillet 2008. Un an plus tôt, en 2007, Kadhafi avait planté ses tentes dans les jardins de l'Élysée avant que les dirigeants français ne décident que ces deux despotes étaient finalement des gens pas fréquentables et surtout de mauvais clients pour les industries d'armes made in France. Surprise, décembre 2024, des rebelles islamistes prennent le pouvoir en Syrie, mais les médias dominants nous assurent que ces gens ne sont que modérément islamistes. Daniel, dans le numéro de janvier 2025 du Monde Diplomatique, tu as choisi cet article signé Akram Belkaïd, Syrie, l'année zéro de l'après-dictature, un pouvoir islamiste, mais non djihadiste. Toutes les guerres se finissent un jour. Celle qui a dévasté la Syrie depuis 2011 a connu un dénouement provisoire avec la chute d'un régime en place depuis 1970. Si la Turquie fait figure de grande vainqueur de ce bouleversement, la passivité des soutiens internationaux du pouvoir déchu, Russie et Iran en tête, interroge. Revendiquant un recentrage idéologique, le nouveau pouvoir en place à Damas doit prouver qu'il a rompu avec le djihadisme. Tiens, c'est bizarre, j'ai déjà entendu ça quelque part. Non, ce ne sont pas de méchants talibans islamistes. Ce sont, comme on disait dans les années 80 au sujet des talibans afghans, des combattants de la liberté. Hein ? Alors bon, oui, ils sont un petit peu islamistes, mais enfin...
Ça rappelle quelques souvenirs. Alors, l'auteur est un journaliste algérien, spécialiste du Maghreb, journaliste au Monde Diplomatique. Ça commence par un pouvoir islamiste, mais non djihadiste. Non djihadiste avoué, je rajouterai. C'est comme ça que se présentent les nouveaux maîtres de la Syrie. Un novice pourrait comprendre que ce sont des islamistes modérés ou des islamistes inclusifs. Ce n'est pas du tout ce que dit l'article. Il distingue l'islamisme qui est une gouvernance intérieure fondée sur la charia, etc., etc., et le djihadisme d'exportation, si j'ose m'exprimer ainsi, et effectivement, ça rappelle les talibans, parce que le contrat qui a été respecté par les talibans, c'est de ne plus exporter le terrorisme islamique, djihadisme, à l'extérieur des frontières de l'Afghanistan. Et c'est à cette époque-là que j'avais entendu un ou une journaliste française qui disait « Les talibans ne sont plus ce que c'était, ce sont des talibans inclusifs ». Heureusement que je ne mangeais pas parce que j'aurais avalé ma fourchette, ma cuillère et toute la batterie de cuisine. Quoi. Alors, il ne faut pas confondre l'Afghanistan et la Syrie. D'abord, la Syrie du XXe et du XXIe siècle est le résultat du démembrement de l'Empire ottoman par le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920. L'Empire ottoman perd les 4/5 de son territoire et est réduit à une Turquie anatolienne. Et le reste est émietté dans divers États, dont la Syrie et les États de la région du Moyen-Orient et même au-delà. Bon, le deuxième point de ce traité, c'est les détroits, car cette affaire, c'est toujours l'affaire des détroits, sont démilitarisés. La Syrie passe sous mandat français, comme le Liban d'ailleurs, car les territoires enlevés à l'Empire ottoman sont en gros partagés par les deux principaux vainqueurs européens de la guerre, la Grande-Bretagne et la France. La Grande-Bretagne a la Palestine et l'Irak, la France, la Syrie et le Liban. Dès l'entre-deux-guerres, on a des mouvements anticoloniaux, indépendantistes. Et en 1943, dans le cadre de la politique de la France libre, Charles de Gaulle fait un voyage en Syrie et il fait une sorte de promesse d'indépendance. En 1946, le pays a une indépendance officielle. Elle est le résultat d'une action politique du Parti Baas, parti socialiste de la résurrection arabe, parti anticolonial, parti laïque au sens où ils ne font pas d'une des catégories de l'islam une religion officielle. Sinon laïque, au moins tolérant sur les diverses catégories de musulmans et aussi de non-musulmans, chrétiens, et il n'y a pas que les chrétiens. Voilà. et l'indépendance est officiellement proclamée à Damas le 7 avril 1947. Damas, qui est la capitale de Syrie, qui est une histoire multiséculaire, hein, c'est la première capitale de la dynastie des Omeyyades, la grande dynastie post-Mahomet. Et maintenant, parlons de la Syrie des Assad, 1970-2024. Le titre, c'est « Syrie, année zéro de l'après-dictature ». Sans S. Et c'est un peu étonnant parce que la Syrie n'a connu que des dictatures. Et pas seulement la dictature des Assad. Elle a connu la domination impériale de l'Empire ottoman, la domination coloniale de la France. Toute une série de dictatures militaires entre son indépendance et l'arrivée du père de Bachar el-Assad en 1970. Le père et fils, entre 1970 et 2024, effectivement, contenit la tradition nationale de dictature sanglante, très sanglante, épouvantable. Le père Hafez el-Assad établit une dictature fondée sur le parti unique Baas, et ce parti qui se fonde dans un rejet de l'Occident colonisateur, très proche d'ailleurs du nasserisme. Et logiquement, quand on se méfie et on se détache des puissances coloniales occidentales, qui vous rejettent elles-mêmes, on se rapproche de l'Union soviétique. Et c'est l'époque de l'Union soviétique qui donne les bases russes aujourd'hui, base navale, Tartous et une base terrestre et aérienne. Ça ne date pas ni de Bush, Bachar el-Assad, ni de Poutine. Ça date du père et de l'époque soviétique. Voilà. Bachar el-Assad est président et dictateur de 2000 à 2024. Son père de 70 à 2000. Alors, président par hasard, il se destinait pas à une carrière politique, mais médicale, médecin. La mort de son frère aîné en fait un président par hasard. Les premières années, il veut être une sorte de modernisateur plus ou moins libéral, raté, car rapidement les logiques du système l'emportent sur un régime autoritaire, dictatorial et répressif. Et c'est un président par hasard, modernisateur raté et un dictateur renversé. Renversé à l'issue d'une histoire d'une déstabilisation complexe entre 2011 et la fin 2024. 2011, ça commence comme apparemment un élément des printemps arabes, en Tunisie, en Libye, en Égypte et aussi en Syrie. C'est-à-dire d'une opposition politique intérieure, libérale, comme entre le système dictatorial du pouvoir de Damas et férocement réprimé par le pouvoir d'Assad. Mais très rapidement, dès la fin 2011-2012, il y a des ingérences étrangères très précoces, très actives, très multiples et très puissantes. D'abord, des pays arabes, musulmans, sunnites, hostiles au pouvoir de Damas, dirigés par la famille Assad, qui sont des Alaouites. Les Alaouites est une des variétés du chiisme, c'est-à-dire les deux grands frères ennemis de l'islam, les chiites, dont la principale puissance est l'Iran, l'Irak est largement chiite, et l'immense majorité des pays du Moyen-Orient et des pays musulmans sont sunnites, dont un des très importants de la région, la Turquie. Et effectivement, la Turquie va jouer un rôle fondamental dans la déstabilisation. Donc, hostilité des pays sunnites, hostilité des pays occidentaux, hostile au régime, parce que historiquement, il est proche de l'Union soviétique puis de la Russie, mais aussi à cause des enjeux énergétiques. Les ressources du sous-sol syrien sont nationalisées, alors en grande partie au service des clans. Mais l'inconvénient, c'est que ça exclut les firmes occidentales des parts du gâteau. Ça, c'est très antidémocratique, entre guillemets, d'exclure les firmes occidentales des parts du gâteau. Et par ailleurs, il y avait un projet de monarchie du Golfe de faire un grand oléoduc qui arrive sur la Méditerranée, qui passerait par la Syrie. Bachar el-Assad a le mauvais goût de s'y opposer. Tout cela fait que les raisons religieuses, sunnites, chiites, l'hostilité occidentale du passé et du présent et les enjeux énergétiques majeurs font du régime syrien un obstacle à de nombreux intérêts. C'est un régime soutenu par l'Iran, et chiite c'est l'Iran, Les Alaouites sont des chiites minoritaires dans leur propre pays, un système politique qui pratique un système de protection des minorités, en particulier chrétiennes, mais il y a des druzes, il y a toutes sortes de minorités dans la région. Voilà. Alors, ce régime déstabilisé par les printemps arabes, les ingérences des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite évidemment, est sauvé in extremis en 2015 par la Russie. En octobre 2015, le président russe, Vladimir Poutine, dit qu'il va venir au secours de la Syrie. Alors pourquoi ? Premièrement, Moscou voit dans le régime syrien un verrou contre le djihadisme d'exportation, le djihad international. N'oublions pas qu'ils ont connu la Tchétchénie et qu'il y a toute une partie de la Russie qui est peuplé de musulmans, et la Russie est extrêmement vigilante de ne pas se faire envahir par la marée noire islamiste et djihadiste. D'autre part, il considère qu'il vaut éviter la déstabilisation de la région, et il prodigue continuellement pendant des années des conseils à Bachar al-Assad, c'est de trouver un compromis politique interne pour établir un consensus national. Le système des Alaouites s'y refuse, probablement pour des raisons structurelles, c'est impossible. Et Bachar al-Assad n'en fait qu'à sa tête. Et Moscou et le président russe, Poutine, commencent à en avoir un peu assez du nommé Bachar al-Assad. Ce qui explique qu'au dernier moment, il pourra un peu moins compter sur eux. Quoique un peu, puisqu'il est en exil en Russie. Tout cela va provoquer une chute à la fois rapide et inattendue. Ça a surpris tout le monde, parce que le régime syrien perd progressivement ses soutiens entre 2015 et 2024. L'enlisement du conflit, en particulier à partir de 2017, la Russie s'agace un petit peu du fait que ses amicaux conseils de soutien ne sont pas suivis. Et par ailleurs, elle est à partir de 2022 occupée en Ukraine. Quant à l'Iran, l'autre grand soutien, il est affaibli. La République islamique d'Iran est affaiblie sur le plan intérieur économique d'opposition, affaiblie par la dénonciation des accords sur le nucléaire par les États-Unis de Trump. Et disons qu'il a d'autres chats à fouetter et d'autres urgences. Résultat, les soutiens s'effritent et au dernier moment, ils vont manquer à Bachar al-Assad et à son régime. Mais c'est aussi une des conséquences des opérations israéliennes depuis le fameux 7 octobre 2023, qui déstabilise toute la région et qui déstabilise en particulier une des arrière-bases de la Syrie, c'est le Hezbollah au Liban. Et voilà finalement comment le dictateur de Damas se retrouve un peu nu. Il y a une coalition d'intérêts multiples hostiles au régime, d'intérêts multiples et contradictoires, régionaux et internationaux. Quels sont ces intérêts ? C'est ça. Un, briser l'arc chiite. C'est l'intérêt du Qatar, des États du Golfe, de l'Arabie Saoudite et de la Turquie, principale puissance sunnite, 80 millions d'habitants. Briser l'arc kurde aussi. Il y a les Kurdes de Turquie et les Kurdes de Syrie. La Turquie considère que c'est un enjeu majeur de sa survie d'éviter qu'il y ait connexion des Kurdes turcs et des Kurdes de la Syrie. Et actuellement, elle est en Syrie et elle crée une sorte de zone tampon entre les diverses communautés kurdes. Briser l'arc kurde, ça c'est la Syrie. Fragiliser les bases russes présentes. Alors ça, l'intérêt des pays occidentaux, des États-Unis, des pays de l'OTAN, des alliés, etc. On voit très bien, on ne sait jamais si le nouveau régime pouvait remettre en cause la présence russe en Syrie, et ça serait une très bonne affaire. L'exploitation des ressources du sous-sol et libérer les flux commerciaux et de transport, et peut-être réintégrer les grandes compagnies occidentales dans l'exploitation de ces ressources qui lui échappent. Et c'est aussi un intérêt israélien. La déstabilisation de cette zone sud-Liban-Syrie. D'ailleurs, juste au-dessous de l'article dont je parle, il y a un article intitulé « Israël pousse frénétiquement ses pions ». Ils se jettent sur tous les territoires incertains, en particulier un territoire qu'ils occupent illégalement depuis longtemps, le fameux plateau du Golan. Donc on voit, au fond, que le régime syrien, outre le fait que c'était une abominable dictature qui a indigné les commentateurs des plateaux de télévision et de radio en France, avait de bien puissants ennemis pour des raisons très nombreuses, mais très différentes. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'a-t-on ? Un pouvoir provisoire de fait, sans État, qui est principalement le fait de plusieurs groupes islamiques, dont le principal est le fameux HTS, qui est une ancienne branche Al-Qaïda, que l'Occident, la France, l'Europe, pour aider à libérer la Syrie de la dictature syrienne, nous avons financé et aidé les mouvements djihadistes, et en particulier le mouvement Al-Nostra, qui était la franchise locale d'Al-Qaïda. À tel point que le groupe HTS est classé terroriste depuis 2017 par les États-Unis, l'Europe et les pays occidentaux, et depuis 2018 par la Turquie. C'est le chef de ce mouvement qui est le libérateur, entre guillemets, de Damas. Je rappelle au passage que l'assassin de Samuel Paty se réclamait du mouvement HTS. Il faut adoucir l'image un petit peu difficile quand même des libérateurs de Damas. Et le chef de HTS, il change sa barbe, il change son costume et il change de nom. Il s'appelait Mohamed Al-Joulani. Ça veut dire originaire du Golan. Et il a changé son nom en Hamed al-Sharaa, qui était son nom d'origine. Al-Joulani, c'est son nom de guerre, de djihadiste. Il se fait couper la barbe qui diminue tous les jours. Il porte des costumes visiblement taillés à Londres. Et il donne toutes les garanties nécessaires aux Occidentaux. Et c'est vrai que ça rappelle terriblement les talibans.
Il a quand même reçu la ministre de la Défense allemande qui n'a pas été obligée de se voiler. Il lui a pas serré la main quand même. Mais
on peut craindre que le vernis se craquelle assez vite. D'où à la fois les espoirs et les embarras des pays occidentaux. La perte des bases russes en Syrie, la perte d'un allié pour l'Iran, l'ouverture économique et financière pour la reconstruction du pays, l'exploitation des ressources du sous-sol. Israël y voit une possibilité d'influence au Liban plus facile encore, où le Hezbollah a freiné son influence. La possibilité de la reconnaissance de son occupation du plateau du Golan. Alors les embarras viennent d'où ? Ce sont des terroristes islamistes classés comme organisation terroriste, par ceux-là même qui applaudissent à leur victoire, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés et la Turquie. Vous me direz, mais après tout, mais le classement comme organisation terroriste a interdit aux États qui l'ont déclaré de financer les nouvelles autorités qui sont élues par personne, qui ont plus le pouvoir. Alors comment faire ? Il va falloir trouver une solution pour déclassifier.
Ils vont découvrir qu'ils sont inclusifs.
Voilà.
De toute façon, depuis l'Afghanistan, que des terroristes qui embêtent les Russes, c'est pas vraiment des vilains terroristes. Jusqu'au moment où tu te fais Ben Ladeniser.
Donc, le vernis d'islamiste modéré inclusif ou modérément inclusif risque de ne pas tenir très longtemps. Le nouveau régime provisoire refait tous les programmes éducatifs syriens, où, évidemment, vous avez compris, la nation est remplacée par Dieu, enfin, etc., c'est un problème. Il y a eu des manifestations d'une partie des Syriens contre ça.
Et des Syriennes.
Ah oui, oui, on était un peu vite, on va revoir ça, etc. Bon. Alors, dans cette affaire, quels sont les gagnants ? Les monarchies du Golfe, l'Arabie saoudite, Israël, la Turquie. Lors de la première grande manifestation politique de la libération de la Syrie, la grande prière à la mosquée des Omeyyades, participait à la prière le chef des services de sécurité de la Turquie. La Turquie est à la manœuvre. C'est un des grands gagnants de l'affaire, à la fois sur la question kurde, la division des Kurdes, et sur l'augmentation de son influence régionale. La Syrie est une ancienne province de l'Empire ottoman. Les Syriens seront-ils aussi gagnants que les monarchies du Golfe, l'Arabie saoudite, Israël et la Turquie ? Et je terminerai, dernière ligne de l'article du Monde diplomatique, la Syrie va donc constituer un champ d'expérimentation multiple. Celle de la nécessaire reconstruction d'un État, celle de la création d'une nouvelle armée. L'armée de Bachar, elle était inexistante. Hein. Celle de l'arrivée au pouvoir d'islamistes, encore inscrits sur les listes internationales de djihadisme à arrêter, qui, s'ils étaient palestiniens, libanais ou soudanais, seraient aujourd'hui encore voués aux hégémonies par les pays et les médias occidentaux. Voilà.
Philippe, il faut faire la différence entre islamiste et puis djihadiste. Il y a un pays islamiste très dur, très bien vu par les Occidentaux, c'est l'Arabie Saoudite, qui investit dans nos banques, nos hôtels de luxe, qui achète Place Vendôme, les montres Patek Philippe par brouette entière. Donc l'Arabie Saoudite, c'est Al-Qaïda qui a réussi. Par ailleurs, parce que souvent les gens identifient arabes, musulmans, dans cette partie, les chrétiens avaient joué un rôle, par exemple, Georges Abache, qui était du FPLP, était chrétien, Michel Flack, un des créateurs du Baas, et Tarek Aziz était le vice-président de Saddam Hussein. Donc, c'est une toute petite communauté, mais qui a pris sa part dans les combats anticolonialistes et anti-occidentaux.
André.
Effectivement, le parti Baas, c'est le courant nassérien, en gros, c'est-à-dire le nationalisme arabe, pan-arabe, etc. Bon, assez puissant, à un certain moment, il y a même une tentative de création d'une république arabe unie, sous l'égide de Nasser, etc. Dès le départ, ce nassérisme, ce nationalisme arabe, qui n'est pas à base religieuse, hein, c'est un mouvement politique qui s'oppose aux intérêts occidentaux, aux intérêts des grandes compagnies pétrolières en particulier, est la cible de l'Occident, des Français, des Anglais, des Américains. L'expédition de Suez contre Nasser, Israël se joint à cette expédition, se dit en passant, pour pousser ses pions hein, dans le Sinaï, etc. Israël, dès l'époque, se voue aux intérêts occidentaux pour ses propres intérêts à lui. Bon, alors les Américains reprennent le relais, hein, poussent un peu les Anglais et les Français, et ce sont les Américains qui vont se battre sans interruption contre tous les régimes de ces pays-là qui ne seraient pas des régimes favorables aux intérêts occidentaux, partout en Iran, en Afghanistan, etc. Et là, dans ce conflit qui est majeur, bah, les islamistes vont être utilisés, instrumentalisés dès le départ par les Américains, et les Anglais, etc., pour combattre ces régimes progressistes, nationalistes, contraires aux intérêts occidentaux. C'est très clair. Alors, l'URSS va soutenir ces pays-là sur le plan militaire, etc. Bon, le fait est que c'est un échec et que c'est, bon, ce sont les Occidentaux, les Anglo-Saxons qui vont l'emporter jusqu'à aujourd'hui. Dernier épisode de cette bataille pour liquider tous les régimes qui seraient contraires aux intérêts occidentaux, bah c'est la chute de Bachar el-Assad. C'était objectivement un truc anti-intérêt capitaliste occidentaux. Il fallait le faire tomber. Et là-dedans, bon, les islamistes, à un moment, ils sont utilisés. Quand ils deviennent gênants, on les combat, mais on les garde toujours sous la main pour pouvoir les utiliser dans l'intérêt ultime de l'impérialisme anglo-saxon. C'est aussi simple que ça. Et ce qui se passe en Syrie aujourd'hui n'est pas extraordinaire. C'est tout à fait dans la ligne.
Dernière ligne droite de notre spécial Diplo, c'est avec Philippe et sa pointilleuse remarque sur les médias, où l'on verra que si des méchants islamistes d'hier peuvent redevenir de gentils islamistes d'aujourd'hui, très modérés, ben y a des méchants qui restent méchants.
Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris ment.
18 juin 2024.
Cette remarque est relativement ancienne, elle est toujours d'actualité. Le journal de 8 heures de France Inter y commençait ainsi. La journaliste Florence Paracuelos. À la une ce matin, le sommet des parias. Vladimir Poutine, Kim Jong-un. Le russe arrive à Pyongyang pour resserrer des liens déjà étroits entre les deux pays. Nous sommes à Moscou dans un instant. Des armes nucléaires, ils en ont. Et ils menacent régulièrement de s'en servir. Ils traînent les sanctions internationales qui frappent leur pays comme des boulets. Ils ont mauvaise réputation et ils s'en fichent. voici quelques-uns des points communs qui unissent Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Le russe est donc attendu à Pyongyang ce matin pour 2 jours de visite. Bonjour Sylvain Tronchet. Sylvain Tronchet. Bonjour Florence. Florence Paracuelos, vous êtes notre correspondant de France Inter à Moscou, d'où Vladimir Poutine est parti il y a quelques heures pour resserrer encore les liens avec le dictateur nord-coréen. Sylvain Tronchet, oui, c'est la rencontre de 2 régimes parmi les plus sanctionnés du monde avec l'Iran. C'est aussi la rencontre des 2 dirigeants qui agitent le plus volontiers souvent la menace nucléaire et qui se sont rapprochés ces derniers temps. Pour Kim Jong-un, la Russie est une alternative à la Chine qui était jusque-là son principal soutien et qui n'a pas toujours apprécié le côté imprévisible et turbulent du dictateur nord-coréen. Pour Vladimir Poutine, la Corée du Nord, c'est une occasion de plus de montrer qu'il n'est pas isolé et qu'il existe sur la planète des dirigeants qui lui déroulent le tapis rouge. Soutenir Pyongyang, c'est aussi un moyen de montrer son pouvoir de nuisance. Désormais, les 2 pays assument au grand jour leur coopération. Lors de la venue de Kim Jong-un en Russie, il y a 9 mois officiellement, aucun accord n'avait été signé. Mais cette fois-ci, le Kremlin dit qu'un accord de coopération stratégique pourrait être adopté. Florence Paracuelos. Alors, partenariat stratégique. Est-ce qu'il faut comprendre coopération militaire, Sylvain? Sylvain Tronche. Il y a peu de chances qu'on sache exactement ce que contient ce document. Mais il semble à peu près clair que la coopération militaire a déjà commencé. Les immenses stocks de munitions nord-coréens intéresse Moscou. Des photos satellites publiées ces derniers mois ont montré des cargos russes venant charger dans les ports nord-coréens ou des convois ferroviaires qui passaient la frontière entre les 2 pays. D'après les Occidentaux, la Russie a déjà utilisé des obus et même des missiles balistiques nord-coréens en Ukraine et Washington affirme que Moscou a, en échange, fait profiter Pyongyang de son expertise en matière de satellites. À une époque, Moscou soutenait les sanctions contre la Corée du Nord. Mais tout cela est désormais terminé. Florence Paracuelos, Sylvain Tronchet, en direct de Moscou, à quelques heures de l'arrivée de Vladimir Poutine, plusieurs dizaines de soldats nord-coréens ont franchi la frontière de la Corée du Sud avant de battre en retraite sous les tirs de sommation. Derniers épisodes des tensions qui montent entre les 2 pays avec des ballons nord-coréens remplis de déchets et d'excréments envoyés au sud qui répond en diffusant de la K-pop à fond le long de la frontière. Je passe à mes remarques. Remarque 1. Des États paria. Que signifie ce mot de paria ? Au figuré, quand il est sorti de son contexte hindou, il signifie personne exclue socialement, méprisée par un groupe. Mais aux yeux de quel pays la Russie et la Corée du Nord sont-elles des parias? Aux yeux de l'Amérique du Nord, États-Unis plus Canada, de l'Union européenne et de quelques associés comme le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège, le Japon, la Corée du Sud, plus quelques breloques comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Soit, en résumé, 15% de la population mondiale et un poids économique en déclin. Remarque 2, la Russie et la Corée du Nord ne sont pas du tout parias, ni aux yeux de la Chine, ni à ceux de l'Inde, ni à ceux de la majorité de l'Asie, ni à ceux des pays musulmans, ni à ceux de l'Afrique subsaharienne, ni à ceux de l'Amérique latine, soit 85% de la population mondiale et un poids économique de plus en plus prégnant. Rapporté à ces données, la qualification de communauté internationale, dont se targuent la plupart du temps les 15% de la remarque 1, apparaît d'une suffisance et d'une arrogance d'autant plus insupportable qu'elles sont proférées en toute innocence, en toute inconscience, en toute incontinence. Remarque 3. Ils traînent les sanctions internationales comme des boulets. Où les journalistes de France Inter ont-ils vu cela? Ignorent-ils que la Russie, comme la Corée du Nord, ont développé des stratégies de contournement qui leur permettent non seulement de compenser les sanctions édictées par les pays occidentaux, mais de s'en sortir même beaucoup mieux que ces derniers, au moins pour la Russie. Il y a par ailleurs dans l'image du boulet celle du forçat du 19e siècle, popularisé par la BD des Dalton, qui révèle tout le mépris de la bourgeoisie nantie, bouffie de foie gras et de bonne conscience, envers les miséreux expédiés au bagne de Cayenne ou de Nouméa pour avoir porté la main sur un propriétaire.
Mais tu sais bien que dans la vie, il y a les méchants et les nantis.
Remarque 4. Ils ont mauvaise réputation et ils s'en fichent. Que ce vocabulaire est éclairant.
C'est vrai, Vladimir Poutine ne pleure pas tout seul le soir dans sa chambre parce qu'on ne l'aime pas.
Comment il n'est pas suicidaire?
On croirait entendre, il y a quelques décennies, des bourgeois bons chrétiens parlant de très jeunes femmes, parfois même jeunes filles, engrossées par le patron, le curé ou le notable local, et qui soutenaient le regard réprobateur de ceux qui voulaient leur faire expier leurs fautes. Ou des âmes charitables se scandalisant, il n'y a pas si longtemps, lorsque des homosexuels s'affichaient avec leurs compagnons sans baisser les yeux. On sent dans ce vocabulaire transposé du domaine social au domaine international où le mépris de classe suinte comme du pu, tout le dépit du maître défié et impuissant. Remarque 5. Il est révélateur que dans son intervention, Sylvain Tronchet réussit à placer l'Iran qui, avec Cuba, le Venezuela, le Hamas, le Hezbollah, figure parmi les 5 ou 6 « méchants », entre guillemets, caricaturés à foison, qui permettent aux Occidentaux de se croire le derrière propre. Mais pourquoi les journalistes n'emploient-ils pas les mêmes termes pour parler du régime de Suharto qui tua entre 500 000 et 1 million de communistes indonésiens en 1965 et qui fut soutenu par la CIA? Remarque 6. Il est pour le moins surprenant de voir s'afficher une telle bonne conscience de la part des pays européens qui, du 15e au 20e siècle, colonisèrent, pillèrent, massacrèrent, exploitèrent et humilièrent pratiquement tous les continents et de la part des États-Unis qui, depuis 1945, ont agressé des dizaines de pays dans le monde. Remarque 7, pour les plus âgés, il est remarquable de voir comment le président Kim Jong-un se glisse bien dans la peau de Bassam Damdou, l'empereur jaune mégalomane de la bande dessinée « Le secret de l'Espadon » de la série « Blake et Mortimer », publiée de 1946 à 1949. À cette époque, l'auteur Edgar P. Jacobs, dessinateur belge, avait imaginé un état secret situé au Tibet, dans des montagnes, tout ce qui, métaphoriquement, était le plus éloigné et le plus opposé aux étendues océaniques, au Royaume-Uni insulaire, dominant les mers et qui prenait la tête de la résistance à l'Empire jaune. Même si Jacobs s'inspirait beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, on sentait dans sa BD transparaître des éléments de la guerre froide débutante, ainsi peut-être que de lointaines réminiscences de l'invasion jaune, roman paru en 1908 sous la plume du colonel Émile Drian, dit capitaine d'Henri, et fortement marqué par la révolte des Boxers 1899-1901 et la guerre russo-japonaise 1904-1905.
Et voilà les amis, c'est assez d'insolence et de subversion pour aujourd'hui. Il est temps de remercier les copains profs d'histoire géo et le monde diplomatique. Vous pouvez télécharger nos émissions via notre site polemixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.